Quand une communauté accueille un enfant pour son baptême, cette communauté souhaite préparer au plus près de la famille le culte, tout en offrant aussi un message qui puisse ouvrir un chemin nouveau pour la famille en posant, par exemple, de nouvelles questions. Ainsi, beaucoup de pasteurs ont l'habitude, et j'en fais partie, de demander aux parents du baptisé de choisir un ou deux textes bibliques qui leur parlent pour ce jour. C'est ce que j'ai proposé à Annabelle et Sébastien. Mais malgré leurs recherches pendant tout l'été, vous n'êtes pas tombés sur le coup de cœur. Alors le choix me revenait. Alors dans ce cas-là, je regarde toujours d'abord les textes bibliques proposés pour le dimanche. Et là, surprise, il y avait un texte du prophète Ézéchiel. Première réaction, chouette. Deuxième surprise, sa lecture ne m'enchante pas du tout. Je n'ai pas envie pour ce jour de partager avec vous des histoires de guerre, de jugement et de mise à mort. Et oui, la Bible est un livre bien complet, avec des textes magnifiques, mais aussi avec des textes difficiles, des textes qui expriment la colère, la souffrance, et même la vengeance et la mort. Alors pour ce matin, si vous le voulez bien, on va plutôt insister sur la première catégorie des beaux textes. Et c'est sûr, selon les situations que nous vivons, selon les cultes que nous célébrons, certains textes vont nous parler plus que d'autres. Aujourd'hui, texte de joie et de reconnaissance, quand demain, ici même, pour accompagner une famille en deuil, je choisirai des textes parlant de la souffrance. C'est en cela, voyez-vous, que la Bible est bien vivante. Plus qu'un livre d'histoire, la Bible partage la vie sous le regard de Dieu. Et en ce sens, elle est intemporelle. Elle nous parle jour après jour dans chacune de nos situations de vie. Pour vous, Annabelle et Sébastien, le baptême de vos enfants est comme une évidence. Baptisés chacun petit dans votre tradition chrétienne, ayant ensuite reçu cette éducation en grandissant, il ne vous viendrait pas à l'idée de ne pas faire baptiser vos enfants. Alors si le baptême est évident, il n'en demeure pas moins qu'il est toujours intéressant de partager ensemble sa signification. On entend « le baptême, c'est l'appartenance à la famille chrétienne ». Dans un temple ou dans une église, le même baptême chrétien. On entend aussi « baptiser un enfant, c'est l'accueillir dans la communauté ». Mais le baptême signifie aussi témoigner de l'amour inconditionnel de Dieu et s'engager aux côtés de Jésus-Christ dans l'Église. C'est autour de cet amour de Dieu et de l'engagement à ses côtés que je m'arrête pour ce matin en vous lisant les deux petits textes bibliques que j'ai retenus. Le premier se trouve dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 5, les versets 43 à 47. Jésus dit : Vous avez appris qu'on a dit : Tu dois aimer ton prochain et détester ton ennemi. Mais moi, je vous dis : Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous font souffrir. Alors vous serez vraiment les enfants de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur ceux qui se conduisent bien, comme sur ceux qui se conduisent mal. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense est-ce que Dieu va vous donner? Même les collecteurs d'impôts font de même. Et si vous saluez seulement vos frères et vos sœurs, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Même les gens qui ne connaissent pas Dieu font cela. Le deuxième texte, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 13, les versets 34 et 35. « Je vous donne un commandement nouveau, dit Jésus. Aimez-vous les uns les autres, Oui, aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. Ayez de l'amour les uns pour les autres, alors tout le monde saura que vous êtes mes disciples. Aimez vos ennemis. Voilà une valeur chrétienne bien exigeante, qui nous étonne pour le moins, ou alors que nous comprenons avec difficulté, et qui nous vaut parfois même des railleries de la part de nos contemporains. Est-il vraiment possible d'aimer ceux qui nous font du mal ? Jésus explique que nous n'avons aucune spécificité d'aimer ceux qui nous aiment déjà. Tous font cela. C'est vrai. Il est naturel et facile d'aimer ceux qui nous le rendent bien. Pour les disciples qui viennent d'accepter de suivre Jésus, il met en parallèle la loi ancienne de Moïse, « Tu dois aimer ton prochain et détester ton ennemi », et la loi nouvelle qu'il donne, « Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous font du mal ». Jésus donne le ton, fini œil pour œil, dent pour dent. Il s'agit maintenant d'aimer ceux qui nous détestent ou ceux que nous détestons. Impossible. Je crois qu'il faut alors marquer une pause avec ce mot tellement usité qu'il en est devenu usé, le mot « aimer ». Il est utilisé aujourd'hui à toutes les sauces. Il englobe différentes nuances en français et on ne sait plus très bien ce qu'il signifie. Le grec, lui, qui est la langue du Nouveau Testament, a trois verbes traduits par « aimer » en français. La philia, qui désigne l'amitié, l'affection, l'amour qui partage, on peut dire. L'éros, qui est l'amour, lui, charnel. Et enfin, l'agapé, qui signifie « aimer en Dieu ». L'amour qui vient de Dieu, c'est en fait l'amour qui se donne. Et dans nos textes, vous l'aurez compris, il s'agit de ce dernier. Alors si Jésus parle ici d'agapé, l'amour des ennemis ressemblerait plutôt au respect des ennemis. Au respect de celui qui est différent de moi et qui parfois m'agace profondément. Le respecter, car il est lui aussi fils ou fille de Dieu. Dans le livre de la Genèse, à partir du second récit de création, une tradition juive explique que Dieu a créé d'abord un seul être humain. Alors, qui était-ce ce premier être humain que Dieu a créé ? C'est pour voir si vous suivez, apparemment non. Qui est le premier être humain que Dieu a créé dans la Bible ? Comment il s'appelle ? Adam. Eh bien, Adam, ça veut dire la terre en hébreu. Eh bien, donc cette tradition juive nous explique que si Dieu a décidé de créer d'abord un seul être humain, c'était pour bien signifier que nous sommes tous issus de la même personne. Tous venant du même être, tous frères et sœurs, du plus vil au plus respectable, hier, aujourd'hui et demain, nous venons tous de la même famille. Dieu vit que cela était très bon. C'est ce que Dieu dit après avoir créé, cette fois dans le premier récit de création, l'être humain. Dieu veut nous montrer ainsi que ce qu'il fait, ce qu'il crée, est bon, est beau, et qu'il pose sur chacun de nous un regard plein de bienveillance. Alors nous pouvons vivre avec assurance, comme étant un être unique et ayant de la valeur. Je suis appelée ainsi à poser un regard bienveillant sur moi-même. Je suis invitée à faire de même pour chaque être que je croise, comme pour la création qui m'entoure, à l'image du bon regard de Dieu. Je crois que c'est cela, aimer ses ennemis, être bienveillant envers tous ceux qui nous entourent. Peut-être que ce mot bienveillance serait plus approprié dans notre langue française pour parler de cet amour des ennemis. Cela pourrait donner « Dieu t'aime, alors sois bienveillant envers toi-même d'abord, sois bienveillant envers ton prochain, sois bienveillant envers la création et sois bienveillant aussi envers tes ennemis. » Est-ce que c'est plus audible pour vous d'entendre cela ? À vous d'en juger. Je crois qu'il faut en tout cas garder cet appel pressant de Dieu que nous entendons dans ces deux textes. La bienveillance de Dieu est première et nous appelle à poser un bon regard sur chacun, ami ou ennemi, à commencer par nous-mêmes. Et ça, c'est peut-être le plus difficile. Vous l'avez entendu, dans le texte de Matthieu, Jésus va même plus loin que le « aimer ses ennemis ». Il dit « prier pour ceux qui vous font du mal ». Vous allez me dire « ah ben, on a résolu un côté, et maintenant, allez, encore autre chose ». Mais je crois que finalement, c'est en commençant par prier pour ceux que nous n'aimons pas que nous serons capables d'être bienveillants envers eux. La prière nous donne une force incroyable qui permet d'être apaisés envers ceux que nous croisons et d'apprendre à les respecter. Le deuxième texte de l'évangile de Jean va parler, lui, d'un témoignage au monde. « Aimez-vous les uns les autres, et ainsi les autres sauront que vous êtes mes disciples. » On entend parfois que certains non-chrétiens ont bien plus de valeur humaine que les chrétiens. Oui, cela se vérifie. Mais je crois que nous, chrétiens, savons que si nous sommes capables d'aimer notre prochain, de le respecter et d'être bienveillants envers lui, c'est parce que Dieu, le premier, nous aime et nous donne ce regard qui nous permet de nous tenir debout. Il paraît qu'un petit enfant qui ne reçoit pas de regard bienveillant sur lui à sa naissance et dans les mois qui suivent pourra difficilement donner de l'amour en grandissant. C'est un peu la même chose pour l'amour divin. Et c'est là, justement, par ce témoignage de notre amour gratuit pour chacun, que nous pourrons refléter l'amour de Dieu. Alors, en étant bienveillants, nous témoignons de Dieu au monde. En essayant d'être et de vivre selon la bonne nouvelle de Jésus-Christ, nous parlons de lui et de son message. Notre vie chrétienne se déroule dans une boucle continue et infinie qui pourrait dire « reçois, vis et va ». Alors que ce beau mouvement entraîne maintenant chacune de nos vies, et en particulier ce matin, la vôtre, Annabelle et Sébastien, aux côtés de vos enfants, pour que vous puissiez à votre tour un jour, quand ils seront assez grands, leur dire « Recevez, vivez et allez dans la paix de notre Seigneur. » Amen.